We do biz.
We do biz.
Devenons business.
Bonjour à toutes et à tous, Majid Yewi sur la radio We do biz pour l'émission Quartier d'affaires. Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat féminin et on va parler d'une problématique vraiment importante qui sont les familles monoparentales. Et pour ce faire, je vais m'adresser à Yamina Mahmoudi. Yamina, bonsoir.
Bonsoir Majid.
Alors, vous avez fait vraiment un constat, suffisamment effarant, qui est le nombre de familles monoparentales, en France et en l'occurrence sur l'Île-de-France, et 85% d'entre elles sont, il y a des mamans, seules, isolées, avec des enfants et qui ont une problématique d'emploi.
Complètement, elles ont d'énormes difficultés à aller vers la formation professionnelle, à aller vers l'emploi. La raison, elle est simple, c'est parce qu'elles ont des enfants et elles n'ont pas de mode de garde adapté. Si je devais résumer la problématique à une réponse, en fait, ça serait celle-ci.
Donc, tant que je ne trouve pas de solution pour faire garder mes enfants, c'est difficile pour moi, entre guillemets, de me libérer de ce poids, de cette problématique pour aller travailler, tout simplement.
Tout simplement, il y a aussi des associations dans toutes les villes qui font un travail absolument magnifique en direction des personnes, qu'elles soient monoparentales ou pas. Et beaucoup ne peuvent pas participer, non pas parce qu'elles ne veulent pas, mais parce qu'elles ne peuvent pas. Il n'y a pas de mode de garde enfant déjà adapté à des couples qui peuvent se relayer auprès des enfants, à plus forte raison quand on est seul avec ses enfants et dans la précarité, généralement, ça va avec.
D'accord. Quand on parle de mode garde pour les enfants, c'est à la fois pour la petite enfance, mais les un peu plus grands également, qui sont encore un peu scolarisés, en primaire, des jeunes enfants jusqu'à l'âge de 10-11 ans.
Tout à fait. C'est pour ça que j'évite. Au début, j'employais le mot crèche, mais je ne l'emploie plus parce que ça va jusqu'à 3 ans. Oui, c'est un mode
avant
de garde d'enfants.
Avant l'école, je dirais maternelle, bien sûr.
Tout à fait. Je préfère dire mode de garde d'enfant adapté. Les crèches ouvrent à, 7h30 et 19h au plus tard, vraiment dans le meilleur des cas, elles ferment.
Déjà, ça fait une grande amplitude horaire et c'est pas le cas de toutes les crèches.
C'est pas le cas de toutes les crèches et en plus, on ne tient pas compte du tout des emplois du temps des parents. Ces familles monoparentales, beaucoup d'entre elles ont des travaillent très tard le soir et commencent très tôt le matin et il n'y a pas de mode.
Et par définition, elles sont seules, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas, ces jeunes mamans, parce qu'on en parlera également des jeunes papas aussi.
Tout à fait.
Des papas également qui sont aussi isolés avec leurs enfants et qui ont aussi cette problématique d'emploi. En tout cas, ces personnes, à la tête de cette petite famille, ne peuvent pas se reposer sur le conjoint pour aller récupérer et s'organiser d'un point de vue logistique.
Elles ne peuvent pas le faire et est-ce que c'est à elles de le faire? Est-ce que c'est pas à la société de prévoir justement de trouver des réponses? Moi, je pense que c'est de ce côté-là qu'il faut regarder aussi.
Donc, il y a une demande. S'il y a une demande, s'il y a un besoin, c'est qu'il y a un marché.
Tout à fait.
On va parler business.
On va parler business. Je me suis décomplexée de ce côté-là. Beaucoup. Alors, il y a des structures qui sont ouvertes tard la nuit. Et ben, il y a des salariés qui travaillent. Il y a dans la restauration, dans le secteur médical. Voilà. Donc, et que fait-on des enfants pendant ce temps-là? Donc, de s'en occuper. Alors, il y a des entreprises qui s'en occupent et qui sont pour pas mal d'entre elles cotées en bourse. Alors, pourquoi pas? Mais est-ce qu'elles répondent vraiment à cette problématique-là d'amplitude horaire? Je ne crois pas. Il y en a qu'une en France qui fait ça. Elle se trouve à Chanteloup-les-Vignes.
La fameuse crèche
Babylou,
qui est une crèche.
Qui est une crèche, mais qui a aussi des enfants un peu plus grands. Bon, elle a un agrément qui s'y prête aussi. Mais on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il n'y en a qu'une en France? Alors que la problématique de la monoparentalité sans mode de garde d'enfants, c'est quelque chose qui fait des ravages.
Donc ce modèle peut être dupliqué sur les n'importe quel territoire, en tout cas en France et en l'occurrence sur deux départements franciliens, pour pouvoir l'évoquer.
Mais complètement, et moi je me suis appuyée là-dessus en fait, par rapport à la couverture horaire de Babylou, vraiment c'est le point commun de mon projet, donc avec Babylou.
Le projet c'est
Dignité pour la personne.
Dignité pour la personne. Donc, on peut un peu développer par rapport à l'offre, parce que là, c'est le constat que vous avez fait, donc les observations sur vraiment la problématique des mamans et de leur retour à l'emploi. Et donc, derrière, quelle est l'offre de service que vous proposez dans le cadre de Dignité?
Alors, c'est un projet qui est, me dit-on, assez complexe, ambitieux. Alors, ambitieux, j'assume complètement, il l'est, et je persiste, et je le signe. C'est une entreprise sociale qui va recruter, former et salarier en même temps en alternance des parents de familles monoparentales pour aller répondre à une vraie demande qui est celle de la dépendance, du secteur de la dépendance. Ça, c'est une chose. Comment faire pour arriver à tout ça? Bah, pareil, il faut que ces parents monoparentaux, il faut qu'ils aient un mode de garde enfant adapté. C'est pour ça que dans l'entreprise, il y aura un mode de garde enfant qui sera ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pourquoi cette amplitude horaire? Je vais essayer de synthétiser. Il va y avoir une partie de ce mode de garde enfant qui sera réservée aux salariés de l'entreprise et une partie pour toutes les structures du territoire. Il y a un véritable ancrage territorial de mon projet pour les structures qui font de l'insertion en direction de l'emploi. Et pareil, donc voilà, Dignité pour la personne va répondre à cette problématique pour soulager, permettre plutôt ces personnes d'accéder à l'emploi.
Alors, juste réexpliquer clairement le lien avec la dépendance.
Alors, la dépendance, c'est parce que le projet, bien entendu, je me suis appuyée sur mon expérience. La dépendance, pourquoi? Parce que j'ai fait une étude démographique en France par rapport à la pauvreté, la précarité. Donc, j'ai beaucoup étudié, j'ai lu des rapports parlementaux, des études de l'INSEE et autres. Et la même chose ressortait. D'un côté, la précarité qui était en augmentation. Et en face, donc, il y a ce secteur de la dépendance.
La précarité des familles monoparentales.
Des familles monoparentales, oui. C'est bien de le préciser parce que pour moi, ça me paraît tellement évident que j'oublie de le préciser. Donc,
et d'autre côté, le secteur de la dépendance qui est en plein boom avec des problématiques de formation et de personnel dans ce secteur.
Tout à fait. Donc, le secteur de la dépendance, la personne âgée dépendante à son domicile, c'est de celle-ci, hein, que c'est celle-ci qui m'intéresse. Elle est en fait sur ce secteur-là le premier employeur national est le travail au noir. Ensuite, en deuxième position viennent les associations et les sociétés de services à la personne lucratives.
Donc, ils proposent plutôt des auxiliaires de vie.
Des auxiliaires de vie. Alors voilà.
Sauf que vous aujourd'hui, vous avez clairement identifié auxiliaire de vie. Sauf que vous voulez proposer vraiment un autre métier qui est l'auxiliaire de gérontologie.
Tout à fait, auxiliaire de gérontologie. Ce qui m'a fait sortir ce diplôme qui existe, hein, c'est une certification du CREFO qui existe. C'est tout simplement lorsque j'ai vu constater, comme tout le monde, que le plan Alzheimer, le plan grand âge ont été mis aux oubliettes. Donc, ça a été annoncé à grand renfort, mais ça n'a pas été mis en place. Donc, c'est pour ça que c'est ce qui m'a fait réfléchir.
Bien expliquer également la différence, s'il vous plaît, pour nos auditeurs, la différence entre auxiliaire de vie et gérontologie, vraiment en deux mots.
En deux mots, je vais essayer d'être... Ça va être difficile. Hein.
Je sais bien.
Bon, alors en deux mots. L'auxiliaire de vie va s'occuper du cadre dans lequel vit la personne âgée dépendante chez elle. Donc le ménage, les courses, etc. L'auxiliaire de gérontologie, son travail est exclusivement centré sur la personne âgée dépendante. Voilà, j'ai été assez brève.
Brève. Et également, vous m'avez dit la dernière fois, quand on s'était rencontré aussi sur ce projet, c'était aussi prévenir, gérer les risques médicaux, et vraiment d'être en alerte et d'être également l'interlocuteur, le lien avec la personne référente de la famille et également le corps médical.
Tout à fait. Donc, centré sur la personne, j'insiste là-dessus, c'est justement pour prévenir la perte d'autonomie, prévenir la dégradation de l'état de santé de la personne âgée dépendante et maintenir le lien social, la stimuler intellectuellement, la maintenir en vie, tout simplement. Et ce travail, il est possible qu'avec un accord solide avec le proche. le proche de cette personne âgée qui, à juste titre, hein, souvent se sent exclu. Dans le cas présent, enfin de mon projet, il est complètement, il fait partie intégrante. Et il est représenté, le proche est représenté par l'Association française des aidants, qui est partenaire de mon projet.
Donc, j'irai la famille, les proches, partie prenante du projet, mais ce n'est pas la seule partie prenante, parce que vous avez également les collectivités. Si on peut dire un dernier mot sur les collectivités, les partenaires.
Alors, les partenaires, les collectivités.
Puisque vous voulez monter quand même une SIC, hein, je précise aussi.
Alors, oui, une SIC, c'est quoi? C'est une société coopérative d'intérêt collectif. Elle implique les collectivités, elle implique les partenaires, comme je disais à l'instant, donc l'Association française des aidants, la Ligue de l'enseignement aussi, parce que la manière dont ça va évoluer, il y aura un centre, un espace d'accès au numérique pour réduire le fossé numérique, donc il y a la Ligue de l'enseignement aussi, et les collectivités locales ont tout intérêt à être partie prenante, même de manière minoritaire, voire symbolique, parce que une SIC rend un service public et le coût est moins élevé pour la collectivité en choisissant ce statut-là. Et les collectivités le savent, elles ont du mal à y aller, mais beaucoup d'entre elles y vont quand même.
Très bien, vraiment, je vous laisse le dernier mot de la fin, dernier, parce qu'on est vraiment très en retard.
Alors, le dernier mot, c'est d'y aller, quoi. C'est quand on a une idée, ne pas hésiter à aller pousser les portes de la chambre de commerce, des associations, des collectivités, voire du pôle emploi, voire. Alors quand on est comme moi, membre du MOUV, et ça je tiens à le souligner, MOUV c'est le mouvement des entrepreneurs sociaux. C'est une économie certes, mais elle est solidaire et sociale. Donc vous allez sur le site du MOUV, le centre de ressources régionales de l'économie sociale et solidaire. Vous avez aussi des cabinets conseils. Enfin vraiment, on a absolument tout. À notre disposition dès l'instant qu'on a une idée. Je voudrais finir sur une citation d'une phrase, si j'ai le temps.
Allez-y.
La sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. Oscar Wilde.
Très bien, on finira sur cette belle phrase, notre ami Oscar. Et quant à vous, chers auditeurs, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de Quartier d'affaires sur la radio We Do Biz.